Coucou, salut, bonjour, vous écoutez Climax, le podcast de Télé Loisirs.
Climax, le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles.
Et pour commencer ce Climax, on a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vois Katia déjà la mine complètement défaite, je vais commencer par la mauvaise Katia. Pour toi, eh bien c'est que l'hiver approche.
Winter is coming.
Tu sors, Seb, immédiatement.
Désolé, je reste. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore en automne et que cette période, pour les fans de séries que vous êtes, rime avec rentrée des séries. C'est pourquoi, avec les trublions de Climax, on s'est dit qu'on allait jeter un œil sur les nouveautés qui débarqueront bientôt en France ou déjà disponibles sur vos plateformes de streaming préférées. Pour vous aiguiller dans vos choix de nouvelles fictions, j'accueille donc autour de moi Katia.
Salut Seb, salut.
Mais également Yann.
Salut tout le monde, j'avais pas trop capté la référence à Game of Thrones.
Tiens donc. Et pour la première fois en exclusivité intergalactique autour de Climax, Laurence.
Salut tout le monde, va falloir être gentil. Hein.
Ouais.
On l'est toujours.
À peu près.
Ouais, à peu près.
J'ai des doutes.
Allez, on rentre directement dans le vif du sujet en s'intéressant à The Mandalorian, la première série live dérivée de l'univers de Star Wars, tout juste débarquée en Amérique du Nord sur Disney+. Malheureusement, il faudra patienter jusqu'au 31 mars 2020 avant que ce nouveau service n'arrive en France. Mais ce feuilleton fantastique était tellement attendu qu'on n'a pas résisté à l'envie de vous en parler, quitte à se demander si ce n'était pas la série événement de la rentrée. Alors pour ceux qui se raccrocheraient au wagon, The Mandalorian suit les aventures d'un chasseur de primes, incarné par Pedro Pascal, qu'on avait pu voir d'ailleurs dans Game of Thrones. Et l'intrigue se situe entre les épisodes 6 et 7 de la saga, à savoir entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. C'est conçu par Jon Favreau, réalisateur des deux premiers volets d'Iron Man, ou plus récemment du Royaume. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir vu les films de Star Wars pour pouvoir savourer The Mandalorian ?
Ben non, pas vraiment. Et c'est le truc vraiment hyper intéressant dans cette série. Et pour répondre à la première question, oui, je trouve que c'est vraiment la série événement de la rentrée. Parce que c'est une série ultra spectaculaire avec un budget absolument pharaonique de 100 millions de dollars pour 8 épisodes. Et je trouve que Disney, pour une fois, a vraiment bien traité l'univers de Star Wars. Et t'as vraiment pas besoin de connaître et d'aimer la franchise Star Wars pour apprécier la série.
Même si ça aide au niveau des références. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, là, c'est la série événement parce que c'était sans doute une des plus attendues. Voilà, on connaît tous la fanbase de Star Wars. Elle est énorme. Tous les gens sont hyper au taquet dès qu'il s'agit d'une nouvelle peluche, d'un nouveau film ou en l'occurrence d'une nouvelle série. Et en parlant de peluche, d'ailleurs, je pense que les produits dérivés vont s'éclater avec cette nouvelle série. Et puis, effectivement, je rejoins Yann. C'est assez jouissif pour les fans de Star Wars dont je suis, de retrouver dans cette série beaucoup de références à la saga originale, avec beaucoup de talent, je trouve, sinon d'écriture, en tout cas de mise en scène. Moi, je me suis vraiment régalée devant les épisodes que j'ai pu voir pour le moment.
Et le jeu de Pedro Pascal sous le casque, oui, est absolument
si c'est bien lui,
incroyable.
Hein.
Renversant.
Mais quel intérêt d'avoir engagé Pedro Pascal, effectivement le beau gosse de Game of Thrones et de Narcos, si c'est pour lui faire porter un masque pendant toute la série. C'était pas la peine, on pouvait prendre quelqu'un d'autre.
Patience, patience.
Alors, je suis désolée, Yann, Katia, moi je vais m'inscrire en faux. Certes, c'était une série événement parce qu'elle était hyper attendue par tous les fans. Pour moi, ça fait flop. Alors, j'ai vu les Star Wars, j'aime bien. Voilà, je suis pas une spécialiste comme vous, mais j'aime bien, ça me plaît. Là, ça m'a laissé de marbre. C'est uniquement pour faire de l'argent avec les prochains cadeaux de Noël des enfants. Voilà, moi vraiment je suis passée totalement.
Que tu es cynique, ouais. Que tu es cynique, Laurence. Ah, bon. On t'a pas dit qu'il fallait que tu sois d'accord avec nous, moi, sur la première émission.
Non, on m'avait pas prévenu, c'était pas dans le contrat.
Bah,
non, pour moi,
pas
c'est trop
tout.
Facile et ça, c'est pas ça qui fait une bonne série au final.
T'as parlé de feuilleton au début, c'est vraiment un feuilleton, là, c'est du soap opéra, un peu, avec du western beaucoup. Et moi, je trouve que la mixtion des deux fonctionne très très bien. Dans le deuxième épisode, il n'y a pas beaucoup de dialogue et je trouve que c'est hyper intéressant aussi. C'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les séries sont de plus en plus verbeuses. Là, on prend le temps de regarder les images et qu'est-ce qu'elles sont bien faites. Alors oui, il y a des défauts. Moi, je me suis complètement laissée prendre. Ça titille en moi l'enfant et la fan que je suis.
Moi, je comprends. Après, je comprends la réaction de gens qui aiment les nouveaux films Star Wars. Je trouve que c'est un film qui vraiment s'adresse, je trouve, vraiment fondamentalement aux fans de la toute première...
La série, tu veux dire ? C'est la série qui s'adresse.
Pardon. Je trouve que la série s'adresse vraiment aux fans de la toute première trilogie cinématographique. Parce qu'on est vraiment dans ce qu'est l'essence même du premier Star Wars. C'est-à-dire un western dans l'espace, mélange de space opéra, truc un peu crado. Et là, on est vraiment dans des références de Western Spaghetti à la Sergio Leone. La scène d'ouverture du premier épisode dans le bar intergalactique, c'est l'intro de « Et pour quelques dollars de plus » de Sergio Leone. Le Mandalorian, c'est Clint Eastwood. Enfin, toi, le chasseur de primes sans nom, il y a plein de références à ça. Le gunfight à la fin du premier épisode, c'est la Horde Sauvage. C'est complètement ouf. Et dans le deuxième épisode, t'es carrément d'autres références au Shambara, film de samouraï japonais, dont une franchise super connue qui s'appelle Baby Cart, avec un samouraï errant et son bébé dans un landau.
Super connu.
Des gros geeks. D'accord. Mais mais je trouve effectivement qu'ils sont allés dans un territoire qu'on n'attendait pas, que moi j'attendais pas, et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans cette série.
Tout en multipliant les références, encore une fois, à la trilogie originale, avec des personnages qu'on connaît, alors certes qu'ils sont mignons, les Jawa, moi je les trouve assez irrésistibles, enfin il y a plein d'Easter eggs, c'est comme ça qu'on dit, ouais, dans tous les épisodes, et sincèrement, ça, je pense que ça peut contenter ceux qui découvrent et ceux qui connaissent et qui aiment.
Après, franchement, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit des épisodes de 35 ou 38 minutes dans lesquels il se passe franchement pas grand-chose. Aucun dialogue, aucune action. Vincent Delay m'aurait dit aucun public, finalement.
Je te trouve dur, Laurence, d'autant que, encore une fois, pour moi, le aucun dialogue, c'est une qualité.
Ah, je trouve vraiment, ouais, des qualités de mise en scène au niveau, ouais, des effets spéciaux, c'est quand même assez dingo. Enfin, c'est, ouais, il y a une vraie ambition. Ouais. De la part de Jon Favreau, donc moi, je suis pas vraiment fan, je suis vraiment très, très surpris, quoi.
Après, je dis pas que je regarderai pas la suite, mais franchement, pour l'instant, deux épisodes, je me suis ennuyée.
Et en ce qui concerne ma durée, je trouve que c'est plutôt, moi, une bonne nouvelle. J'en ai un peu ras-le-bol des épisodes de 60 minutes. Et donc là, on retourne à une durée plus compatible, je trouve, avec une action et enfin avec un rythme, même si tu le trouves lent. Finalement, moi, je trouve que c'est plutôt bien vu.
À titre personnel, jetez-moi des pierres aussi. Je me suis un peu ennuyé pendant le premier épisode, sauf à la fin. Yann, souvent dans Climax, tu parles de Disneyisation des productions. Là, typiquement, c'est sur Disney+. Star Wars, donc, on est d'accord. Là, quand même, la saga originale a conservé son âme dans cette série. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ouais, alors je suis assez d'accord, et c'est la grande surprise que j'ai éprouvée en voyant le premier épisode.
Je suis assez d'accord là-dessus. Pour le coup, je pense qu'ils respectent bien les codes. On s'y retrouve. C'est pas voilà, ils en font pas trop non plus. Ça respecte la saga, l'univers. Les fans retrouvent ce qu'ils aiment, et plus effectivement, on peut faire émerger tout un tas de nouvelles théories. Donc oui, là-dessus, c'est réussi.
Je ne sais pas ce que vous entendez par Disneyisation. En tout cas, effectivement, Disney, c'est des vrais... Comment on peut dire ça? C'est une usine à pondre des succès. C'est quand même des gens qui connaissent leur métier, qui connaissent aussi le marché. Enfin, là, ils ont réussi les deux, en fait. Ils ont préparé, effectivement, tout l'après commercial. Comment on peut valoriser les quelques millions de dollars investis dans cette série, notamment par les produits dérivés. Et à la fois, c'est quand même au début des gens qui savent faire des séries et des séries d'animation. Donc bah, là, on voit le meilleur des deux, a priori, pour moi.
Ouais, mais c'était pas gagné, hein, parce que franchement, les films, les deux films,
c'est vrai,
les deux films Star Wars et les deux spin-offs Solo et Rogue One, c'est quand même plutôt pas mal.
Mais... Rogue One, c'est vachement bien.
C'est des catastrophes, le Han Solo, c'est des catastrophes absolues, quoi. Donc là, ils retombent vraiment de manière très très surprenante sur leurs pattes. Moi, ça m'a vraiment vraiment scotché, quoi.
Bon, en tout cas, on aura l'occasion de reparler de Star Wars prochainement dans Climax. The Mandalorian, donc, c'est une série fantastique que vous pourrez découvrir à partir du 31 mars prochain sur Disney+. Oui, je sais, c'est pas tout de suite. Le fantastique, d'ailleurs, c'est un peu une valeur refuge dans les séries en ce moment. Les networks et les plateformes de streaming n'hésitent pas à investir dans le genre. On en a repéré quelques-unes pour vous, à commencer par La Guerre des Mondes. Le livre de Herbert George Wells est d'ailleurs doublement à l'honneur en cette rentrée, avec une version coproduite par Fox et Canal+, d'ailleurs déjà disponible sur MyCanal, et une autre version qui est produite par la BBC et TF1. En quoi elles sont différentes toutes les deux, Yann?
Alors déjà, la Guerre des Mondes version Fox-Canal+, c'est une version modernisée du roman de H.G. Wells, et une adaptation très 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 libre. En gros, ils ont gardé que le titre. Ça raconte la version Canal, ça raconte une invasion extraterrestre. Et c'est l'histoire de personnages qui essayent de survivre à l'anéantissement de l'humanité par une espèce d'onde sonore télépathico-bidule qui permet à la série de pas aller dans le spectaculaire et de rester vraiment sur ses personnages, parce que c'est aussi un peu un défaut de la série de pas avoir trop de thunes. Et alors que la série anglaise est beaucoup plus respectueuse du roman original avec, on voit les tripodes et compagnie.
Et ça se passe à l'ère victorienne. En fait, d'abord, il y a un changement d'époque, effectivement, contemporain d'un côté et victorien de l'autre. Et puis, oui, il y a une vision totalement différente du roman, quoi. Une vision intimiste d'un côté, une vision un peu plus, respectueuse, je sais pas, mais en tout cas, oui, plus spectaculaire, sans doute. De l'autre, il y a plus d'argent du côté de la BBC. Mais sincèrement, moi, j'aime bien la version française.
Moi, j'ai trouvé que les deux étaient très réussis, mais dans des styles vraiment très différents. Effectivement, on regarde pas pour les mêmes raisons. La version de la BBC, c'est une version très esthétique. C'est une série historique aussi. Hyper, gros budget, très bien joué, une très belle mise en scène. Et quand on découvre celle de Canal et la Fox, on passe dans un univers totalement différent qui nous parle peut-être un peu plus parce que effectivement ça se passe aujourd'hui, on pourrait être tous concernés, ça pourrait être nous demain, hein, on n'en sait rien. Par contre moi, il y a un truc qui m'a gêné dans cette version, beaucoup de personnages, donc avec du coup des intrigues, de multiples intrigues qui s'entrecroisent, et c'est vrai que voilà, ils auraient peut-être pu en enlever 20 ou 2,
ouais, ça aurait pas. Moi je trouve effectivement qu'on se perd vraiment dans toutes les arcs narratifs, dans la série Canal, il y a vraiment trop de personnages. Et le rythme est vraiment, vraiment, vraiment mou et c'est pas assez. Moi, je trouve qu'il manque un côté spectaculaire. En fait, la vraie menace, c'est des espèces de Doberman biomécaniques, machin, qui servent. En fait, t'as l'impression qu'ils sont là pour servir les scénaristes plus que l'intrigue, parce qu'il y a des fois, ils sont complètement invincibles, ils tuent tout le monde en 30 secondes, et après, t'as une petite mamie avec un flingue, elle le tue alors qu'il est en train de tuer quelqu'un d'autre. Quoi, toi, je trouve qu'il y a une facilité quelque part de scénario qui me gêne un peu. Et alors, le climax de la série, le 8e épisode, waouh, c'est limite Z1.
Alors moi j'ai pas vu jusqu'à la fin, j'ai vu que les trois premiers épisodes, et je trouve qu'au contraire moi cette atmosphère un peu moins spectaculaire que la version anglaise, je la trouve plus prenante. Moi je trouve ça plus angoissant, plus finalement plus efficace. Et après quand même ils se sont permis deux trois trucs qu'on a rarement vu dans des séries françaises. Enfin notamment dans le traitement des quelles sont les victimes des extraterrestres. Enfin je veux dire ils font pas de cadeau pour personne jusqu'à tuer une enfant auquel les téléspectateurs s'étaient attachés. On voit rarement ça quand même dans une série, moi je trouve.
Moi il y a un truc dans la mise en scène qui m'a rappelé un petit peu les Revenants, peut-être.
Oui, c'est vrai,
Katia, notamment le premier épisode,
la montagne aussi,
ouais,
déjà
la montagne, le côté un peu intrigant, etc. Moins sur le côté fantastique surnaturel des Revenants, mais il y a un truc qui ressemble un peu, je trouvais.
C'est vrai.
Est-ce qu'on sait quand la version de TF1, en tout cas, arrivera en France ?
Non.
Pas pour l'instant.
Pas d'information pour l'instant. On évoque maintenant Is Dark Materials à la croisée des mondes, produit par HBO et diffusé en France par OCS. De quoi ça parle, Laurence ?
Alors, Is Dark Materials, c'est ce qu'on connaît en français sous le titre de À la croisée des mondes, donc l'adaptation de la trilogie à succès de Philip Pullman qui avait été publiée à la fin des années 90. Et en gros, c'est un roman d'aventure dans lequel deux adolescents, notamment, découvrent des mondes parallèles. Alors ça se complique, on peut pas résumer ça en deux phrases, mais c'est de l'aventure, c'est du fantastique, des adolescents, des personnages d'adultes aussi. Au casting, on retrouve Ruth Wilson qu'on avait vu notamment dans Luther ou The Affair, James McAvoy qu'on a vu beaucoup notamment la saga X-Men, et la gamine, la petite Daphne Keen qu'on a vu dans Logan. C'est pour moi c'était une des séries événements de la rentrée, très attendue parce que la trilogie avait été très vendue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération à qui ça parle. Dans un autre registre.
C'est quoi ta génération, Laurence ?
La génération des très jeunes, non, les trentenaires. Non mais voilà, La Croisée des Mondes c'était très attendu, au même titre qu'on attend ensuite la datation du Seigneur des Anneaux sur Amazon. Pour moi c'est très réussi ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est diffusé sur OCS pardon, donc en France au rythme d'un épisode par semaine, très réussi, beaucoup plus que le film qui était sorti en 2007 avec Daniel Craig et Nicole Kidman qui avait fait un flop à tel point que sur les trois tomes il y en a eu un seul d'adapté.
Il était très mauvais.
Oui, c'était vraiment pas bon.
Moi, j'aime bien le film. Mais moi, je connais pas les livres, mais je trouve visuellement, je trouvais super.
Là, dans la série, on retrouve l'esprit des romans, avec cette grande aventure épique. Les moyens sont là parce que c'est du HBO, chaîne américaine qui produisait Game of Thrones. Donc, en termes de moyens et de savoir-faire, ils s'y connaissent. Et voilà, les héros nous embarquent avec eux à l'aventure. Un petit bémol, peut-être, pour la jeune fille Daphne Keen qui joue l'héroïne Lyra. Dans mon esprit d'enfant, quand j'ai lu les livres, je l'imaginais pas forcément comme ça. J'imaginais un peu plus douce, badass, comme dirait
elle
Yann.
Elle est carrément badass. Quoi. T'as l'impression qu'elle sort de Logan et qu'elle va sortir les griffes et qu'elle va latter tout le monde.
Après, moi, le succès de La Croisée des Mondes a été un peu éclipsé par le succès qui est venu juste après, qui est celui d'Harry Potter. Mais on se rend pas bien compte en France. La trilogie à La Croisée des Mondes, c'est un gros, gros succès en Angleterre. Et pour cause, c'est vraiment un roman extrêmement très bien écrit, très fin, avec des références. Enfin, l'auteur est un anticlérical, donc c'est une espèce de métaphore de la lutte contre l'intolérance religieuse, parce que effectivement, Lyra et son compagnon se battent contre une espèce d'organisation. Il s'appelle le Magistère, qui gouverne par l'ignorance. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de références qui sont très fines et puis voilà, qui ont parlé. Enfin, moi, je trouve que le roman est extraordinaire et je trouve que la série, pour le coup, bien plus que le film, qui était pas très bon, voilà, elle a le potentiel pour aller creuser un peu plus là. Et puis surtout, c'est du fantastique, c'est du merveilleux, c'est les effets spéciaux valent ce qu'ils valent, mais on n'a pas parlé quand même des démons qui sont la trouvaille de Philip Pullman, c'est-à-dire c'est des espèces d'animaux qui peuvent prendre plusieurs formes différentes et qui sont censés symboliser l'âme de l'être humain. En fait, chaque être humain a un démon.
Très naïf, mais
parce que ça s'inscrit dans un vrai roman, voilà.
Ouais,
c'est un roman jeunesse, bien sûr.
Ouais, mais le seul problème que je peux avoir avec cette série, qui est quand même très très bien foutue, c'est le plus gros budget de l'histoire de la BBC. Ils ont pas annoncé combien, mais c'est vraiment un budget faramineux aussi. Et je pense qu'ils ont mis toute la thune dans les démons, justement pour essayer de les rendre les plus réalistes possibles et qui tiennent la durée.
Alors là, je suis pas d'accord.
Mais moi, le truc qui me gêne vraiment dans la série, c'est moi, ça, je suis désolé, ça arrive après Harry Potter et je pense à Harry Potter tout le temps en voyant ça. Et je trouve.
Et pourtant, chronologiquement, c'est.
Visuellement, Harry Potter, on peut pas le nier, c'est un maître étalon et ça a tout ravagé derrière et tu peux pas ne pas voir Harry Potter avec. Ils essayent de faire des bouts de Game of Thrones dedans et tout.
Pour le coup, pour les démons, juste rapidement, je trouve que ils ont peut-être pas mis tout le budget qu'ils avaient. Moi, j'aurais justement pensé qu'ils allaient se transformer plus souvent et là-dessus, j'étais un peu déçue. Alors peut-être que c'était la faute au budget, mais.
Enfin, Katia, la dernière série fantastique qu'on voulait évoquer dans Climax, c'est Watchmen.
Alors pour beaucoup, pour certains en tout cas, c'était aussi une série événement dans la mesure où c'est l'adaptation d'un comics très connu aux États-Unis qui a fait l'objet déjà d'une adaptation au cinéma. Cet univers-là est très compliqué à résumer. Grosso modo, c'est une dystopie qui se passe. Elle est à peu près contemporaine, en tout cas en ce qui concerne la série. C'est Robert Redford qui préside aux destinées des États-Unis. Les policiers ont subi une attaque terrible par une organisation qu'on appelle la cavalerie, la 7e cavalerie. Et donc pour protéger leur identité, désormais ils sont masqués. À côté de ça, il y a des justiciers que la population n'aime pas beaucoup, qui sont un peu pourchassés. Et puis il y a des puissances transcendantales, dont le docteur Manhattan qui habite sur Mars, dont Adrian Vett qui est un espèce de savant suprêmement intelligent qui est exilé dans une île, on ne sait pas trop où, avec des clones. Il y a une policière, Sister Knight, qui essaie de faire la justice. Atusla, ça se passe en deux époques différentes, la série en tout cas. Voilà, c'est une espèce de mélange de tout ça. Moi, je trouve ça. Alors oui, c'est pas facile au départ quand on n'a pas tous les codes, mais même quand on les a pas, c'est une série qui en appelle à l'intelligence du téléspectateur. Mais je suis fascinée par cette série vraiment. Et alors, je pense que de toutes celles dont on vient parler, c'est celle que je préfère aujourd'hui. Ouais.
Alors moi, j'ai juste précisé deux petites choses. C'est sur HBO aussi, et c'est créé par Damon Lindelof, le scénariste fou de Lost, de Leftovers, de Prometheus et des Star Trek. Le mec est spécialiste d'ouvrir des portes scénaristiques pour jamais les refermer ou les refermer n'importe comment. Et en fait, l'intrigue, juste pour être plus précis, ça se passe après le roman graphique et après le film. On est 30 ans après. Et donc, c'est à la fois la suite du roman graphique et à la fois la suite du film. Moi, je suis un peu mitigé devant la série. C'est les grosses prods HBO. C'est super bien fait. Mais je trouve c'est un peu spectaculaire. C'est super bien joué. Visuellement, c'est très beau. Mais je trouve cette série ultra hermétique. Et pourtant, je suis plutôt ouvert à ce genre de... les comics et tout. Mais je trouve ça vraiment, vraiment très, très dur à suivre. Pour moi, il faut vraiment connaître ou le film ou le comic book pour comprendre à peu près ce qui se passe, quoi.
Il faut accepter de pas tout comprendre pour
moi qui connaissais pour le coup ni l'un ni l'autre, c'est vrai que le premier épisode est hyper ardu, faut s'accrocher. L'histoire qu'a essayé de résumer Katia et les personnages qu'elle vous a, dont elle vous a parlé, c'est effectivement, c'est très complexe. Rien que dans le premier épisode, on passe dans deux époques différentes. Mmh. On comprend effectivement absolument rien à ce qui se passe. Voilà, après, c'est un choix, c'est un parti pris. Pour le coup, ça donne quelque chose de très intriguant, qui donne quand même envie de voir la suite, voir comment ça évolue et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça.
Watchmen, c'est donc sur OCS. Autre genre prolifique, les séries policières, avec trois nouveautés que nous avons souhaité mettre en avant. Alors, on vous prévient, il y a à boire et à manger dans ce qu'on va évoquer. Prodigal Son, pour commencer, Yann, on la classe dans quelle catégorie ?
Ah, au niveau qualité ?
Oui.
Plutôt pas mal, très classique, mais pas mal. Alors, c'est une série de la Fox qui est diffusée aux États-Unis depuis le 23 septembre et qui arrivera bientôt sur TF1. C'est une série créée par Chris Fedak, mec qui a travaillé sur DC Legends of Tomorrow et Chuck. C'est l'histoire d'un Malcolm Bright, qui est un super profiler capable de se projeter dans l'esprit des criminels qu'il chasse.
Que c'est original.
Oui, et grâce à son père, qui est lui-même un des plus grands tueurs en série de l'histoire, le chirurgien.
Dad, why did you kill all those people? I'm not sure I know the answer.
Et donc, Malcolm aide la police de New York à traquer les tueurs, et en même temps, il essaye d'entretenir une relation super tordue avec son père enfermé dans un hôpital psychiatrique. Coucou, le Silence des Agneaux. Donc c'est une série.
Et coucou The Blacklist aussi.
Ouais, oui, ça ressemble à The Blacklist.
Dr. House, enfin, toi, c'est vraiment, on est vraiment dans le classique du génie bizarre tordu avec un background super dark. Alors, ça commence avec des intrigues, le tueur en série à chaque épisode, et après.
Bouclé à chaque épisode, ouais.
Et à la fin au milieu de la série, ça commence à devenir ultra feuilletonnant autour d'un seul tueur. Et en même temps avec le retour sur le passé super traumatique du héros. Donc moi je trouve ça quand même plutôt pas mal.
Oui, je suis assez d'accord, c'est effectivement très classique, ça ressemble à plein de choses qu'on a déjà vues auparavant, mais ça fonctionne, donc pourquoi pas. Le duo d'acteurs fonctionne là aussi, Tom Payne qu'on a vu dans The Walking Dead et Michael Sheen. Tom Payne, il a des yeux fous, il pourrait être aussi bien le tueur en série voilà, comme son père que effectivement le profiler de l'histoire. Je voudrais juste signaler que à mon sens, c'est dans les séries dont on parle aujourd'hui, c'est la seule série création originale, a priori, de la liste. Alors oui, Katia et moi, c'est un peu notre grand cheval de bataille. Les séries originales, parmi cette multitude d'adaptations, on en a ras-le-bol des adaptations. Où sont passées les idées originales ? Prodigal Son, certes, c'est classique, mais au moins, visiblement, c'est une création.
Ouais, alors pour moi, c'est quand même un poil trop classique, du coup, parce que c'est bien fait. Effectivement, c'est bien joué, puis bien écrit, avec voilà le serial killer de chaque épisode et puis l'intrigue feuilletonnante. Après, moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça 100 000 fois. Et il y a tellement de séries aujourd'hui, finalement, les journées ne font plus que 24 heures, que à choisir, c'est pas celle-ci que je prendrais. Après, c'est sans doute une des plus grands publics, donc c'est pas étonnant qu'elle arrive sur TF1. Ça fera le boulot et ça le fera plutôt bien.
Mais perso, je suis pas d'accord sur le côté ultra classique, parce que au fur et à mesure, à partir du 6e épisode, ça commence à vraiment aller dans un truc beaucoup plus dark. Et je suis très intéressé de savoir ce que ça va devenir en fait.
Laurence, tu nous parles toi ensuite de Treadstone.
Treadstone. What is that?
Oui, alors Treadstone, pour le coup, bah, là j'ai préféré Prodigal Son dont on vient de parler. Treadstone, c'est un préquel effectivement des histoires de Jason Bourne qu'on va voir prochainement sur la plateforme Amazon Prime Video. Et l'histoire, en gros, un peu partout dans le monde, des tueurs, agents sont réactivés les uns après les autres grâce à un programme de contrôle mental. Voilà, donc il y a de l'action, ça court dans tous les sens, c'est gras, c'est lourd, c'est pas très intéressant.
Katia, Treadstone, ça mérite qu'on s'y attarde un peu ou pas ?
Bah franchement, remater plutôt la trilogie avec Matt Damon, elle est bien meilleure, de Jason Bourne. Donc, c'est parce que donc Threadstone, c'est aussi une série dérivée de l'univers de Robert Ludlum, encore des romans d'espionnage. Moi, je trouve que c'est un peu vieilli, ce genre de série. On a vu ça je la trouve pas très intéressante. Les films sont bien meilleurs, voilà.
Ouais, je suis assez d'accord. La double temporalité, la création du projet Threadstone, parce que c'est le nom du projet qui a créé Jason Bourne, On n'y comprend pas grand-chose. Et au final, c'est espèce de de méchants russes qui veulent, ou de méchants terroristes qui veulent lancer un missile nucléaire qui est paumé au fin fond d'une grange en Russie. C'est complètement ridicule. Et effectivement, le fait d'avoir les deux mêmes acteurs, quasiment les deux mêmes acteurs qui se ressemblent pour les deux personnages principaux, tu comprends rien du tout à ce que tu vois. Et pour un truc d'espionnage, c'est raide, quoi.
Et pour boucler notre zoom sur les séries policières, on a gardé le meilleur pour la fin. La série préférée de Katia, Nancy Drew.
Cherry on the cake, hein, on dit America. Non, Nancy Drew, c'est une héroïne iconique aux États-Unis puisque c'est encore une adaptation de roman. Une enquêtrice, une étudiante qui enquête, dont le père est avocat, voilà, qu'on connaît en France sous le nom d'Alice. Elle était publiée en Bibliothèque Verte à l'époque, écrite par Caroline Keane. Il se trouve que c'est un collectif d'auteurs. Plusieurs auteurs ont écrit les romans. J'avais adoré. Ça faisait partie de mes premières lectures. Donc voilà, pour moi, c'est un souvenir un peu. C'est une Madeleine de Proust. J'attendais de la série qu'elle me redonne un petit peu ce côté Madeleine, avec des enquêtes à la Véronica Mars, une héroïne sympathique, voilà. Je me retrouve avec une série qui est donc une série de la CW, qui va sans doute peut-être arriver sur Netflix, puisque Netflix a l'habitude de diffuser les séries de CW. C'est mal joué, c'est pas très beau à l'image, l'intrigue n'a pas beaucoup d'intérêt, je passe mon tour. Et avant de me transformer complètement en Yann, je lui passe la parole.
Ah, bien, très bien, donc j'ai te relancer en parlant de la magnifique Kennedy McMahon qui fait Nancy Drew, qui est absolument atroce. C'est une des pires actrices de vraiment de la rentrée.
Tu veux dire celle à qui on a envie de donner des claques toutes les 5 minutes?
Pire que Véronica Mars, et déjà Véronica Mars, elle était insupportable.
Ah non, là, on peut pas te laisser dire ça.
Si, on aime Véronica Mars.
C'est une déclinaison de Véronica Mars encore plus insupportable, avec ses monologues, sa voix off prétentieuse et moralisatrice en permanence. C'est insoutenable. Alors, l'intrigue, c'est une pauvre intrigue, c'est Kiki qui a tué la pauvre dame à la voiture.
C'est Kiki.
Et c'est toute la saison est là-dessus. Alors, au bout d'un moment arrive une espèce de délire fantastique avec un fantôme. C'est absolument laid, c'est débile. Et en plus, bon, c'est un échec absolu aux États-Unis. Ça fait à peine 600 000 téléspectateurs. Donc, je pense qu'il n'y aura même pas de saison 2.
Non, effectivement, on peut absolument pas comparer Nancy Drew et Véronica Mars, Yann. Mais
Nancy Drew, qui sort maintenant, ça
voilà. Mais Nancy Drew, moi, je suis comme Katia, j'avais adoré les bouquins Alice quand j'étais petite, et du coup, j'avais une image très forte en tête de à quoi ressemblait Alice et ses copines qui s'appelaient Bess et Marion dans les romans, et puis leurs trois amis garçons.
Ned, etc. Bob et je me rappelle plus.
Mais là, du coup, l'image est totalement différente. Alors, ok, il fallait moderniser ces personnages, très bien, mais là on a des caricatures, les personnages sont pas du tout attachants. On m'aurait donné la même enquête avec des personnages un peu attachants, j'aurais peut-être dit oui, pourquoi pas, mais alors là c'est non, non et non.
Très bien, bah, c'est sur cette note positive qu'on enchaîne dans Climax, hein, avec la dernière catégorie. Nous allons parler maintenant des comédies dramatiques et on commence par The Morning Show, l'une des toutes premières séries diffusées par Apple TV+. Yann, ça parle de quoi et ça vaut quoi ?
Alors, le Morning Show, c'est l'histoire d'un Morning Show. C'est vraiment très, très facile.
Donc, merci, Yann.
Bah, au revoir.
D'un show du matin, c'est ça ?
Voilà. Et donc, ça commence avec le présentateur vedette de ce Morning Show, un peu en décrépitude au niveau d'audience, qui se fait brusquement virer pour un scandale sexuel. Et donc, c'est l'histoire de sa co-présentatrice, qui est jouée par Jennifer Aniston, en mode visage vitrifié à la Nicole Kidman, qui doit essayer donc de faire survivre sa carrière, son show. Et donc, elle décide d'engager à ses côtés une journaliste un peu intrépide, qui vient un peu de la campagne, voilà, qui est jouée par Reese Witherspoon. Et donc toute l'intrigue tourne autour des complots de journalistes, de l'histoire de comment essayer de sauver le show, les producteurs, voilà. Et c'est donc là une des premières séries Apple. Et comme toutes les séries qui commencent les plateformes, il y a un côté à la fois très show-off avec des superstars, un super sujet, et un côté très pudding, un peu lourdingue et un peu série à la papa. Donc moi, j'ai vraiment eu du mal avec cette série.
Le pudding. Non, alors moi, je trouve qu'elle est quand même intéressante, en tout cas, sur ce que je peux juste, c'est-à-dire le pilote, que j'ai vu que celui-là. C'est sur fond de Me Too, effectivement, parce que c'est pas un scandale sexuel. Il est accusé de harcèlement, le co-présentateur de cette émission, joué par Stiller. dis pas de bêtises.
Non, Steve Carell.
Steve Carell, voilà. Bon. Donc c'est sous fond de Me Too, et à la fois donc il y a ça, et puis à la fois il y a aussi les coulisses d'un show aux États-Unis, mais qui ressemble sans doute aux coulisses d'un show en France, hein, avec avec des guerres d'ego, avec des impératifs économiques, avec le directeur de l'info de la chaîne qui dit aujourd'hui l'info. Bon, c'est pas ce qu'on veut, on veut du divertissement. Donc avec cette espèce de... avec une porosité de plus en plus importante entre l'information et le divertissement. Donc en filigrane, il y a tout ça dans le pilote. Il y a des actrices, Jennifer Aniston, Friends évidemment. Effectivement, j'ai un peu de mal à la regarder. Moi, je trouve que vraiment son visage me met mal à l'aise. Il y a Reese Witherspoon qui est vraiment pour le coup incroyable. Et puis, je trouve que la mayonnaise prend plutôt bien avec des défauts dans le pilote. Mais moi, ça me donne envie de regarder la suite.
Oui, moi je suis d'accord avec Katia, j'ai vu le pilote, j'ai envie de voir la suite, donc c'est très positif. On a vraiment envie de regarder, je trouve, pour ce duel d'actrices. Jennifer Aniston, elle en fait des caisses, mais ça lui va plutôt bien dans ce rôle-là. Reese Witherspoon, pareil, elle incarne un personnage qui lui va vraiment comme un gant. Elles sont parfaites dans chacune dans leur rôle. Et puis, alors effectivement, ça parle de Me Too, et c'est aussi une série qui est plus ou moins basée sur l'actualité, parce que la série, alors certes de manière fictionnée, rappelle l'histoire vraie du présentateur américain Matt Lauer. Et donc, il a été remercié de son émission pour les mêmes raisons et de sa partenaire Savannah Guthrie, donc voilà, que Jennifer Aniston représente plus ou moins à l'écran. Alors voilà, c'est fictionné, c'est romancé bien sûr, mais tous les éléments sont très intéressants les uns mis ensemble, et oui, ça donne envie de voir la suite.
Ouais, moi, je trouve que Me Too, c'est limite un argument scénaristique qu'ils utilisent vraiment quand ils veulent. J'ai vraiment du mal, et moi, ça me fait quand tu parles de séries qui se passent dans les médias, t'es tellement loin des séries de Sorkin. Comme oui, Newsroom au Studio 60, qui était mille fois plus intéressant.
Oui, mais c'est très actuel.
Oui, c'était des séries de leur époque. Aujourd'hui, oui. les conditions série, ont changé. Et
cette
tout.
Série, moi, c'est que... super. C'est les personnages, ils sont super mal écrits, et c'est vraiment. Je trouve ça super superficiel en fait. Il n'y a pas de profondeur dans cette série.
Sur Amazon, depuis quelques semaines, est disponible Modern Love. Katia, est-ce que c'est la nouvelle pépite de la plateforme?
Alors, pépite, je sais pas, mais en tout cas, ils l'ont diffusé au bon moment, c'est-à-dire juste avant les fêtes de Noël. Je rebondis sur ton hiver introductif. C'est de la comédie romantique. C'est une anthologie, en fait, qui reprend, donc, qui est une adaptation des Courriers du cœur du New York Times. Et ce sont des épisodes indépendants les uns des autres, avec pléthore de stars. Il y a Anna Tawai, notamment, Dev Patel. Enfin bon, il y en a tout un tas. We face the music together. Et c'est de la mini-comédie romantique à chaque fois. Ça marche très très bien. C'est écrit très légèrement. C'est filmé pour la plupart du temps donc à New York. C'est The Holiday, matinée de toutes les comédies romantiques qu'on connaît. Voilà. À déguster avec un thé devant le sapin.
Matinée d'un petit air aussi de Woody Allen. Moi, j'ai trouvé ça m'a fait penser un peu au film de Woody Allen, avec la musique, notamment les romances à la new-yorkaise, la manière dont c'est filmé. La musique est effectivement très très présente dans chaque histoire. C'est sympathique, ça se picore. Quand on a fini de binge-watching, on se peut faire un petit épisode de 30 minutes par-ci par-là.
C'est dur avec Woody Allen. Hein. Cette série, c'est de la guimauve, mais c'est un tsunami de guimauve. C'est dégoulinant. Tu sors de cette série, mais... t'es tout gluant, c'est atroce. À côté de ça, Love Actually, c'est un drame bergmanien, quoi.
Non, mais est-ce qu'il y a des comédies romantiques que tu aimes?
Non, mais il y a plein de comédies romantiques que j'adore, mais là, c'est...
On veut des noms, Yann.
Ouais. C'est insupportable de...
Le retour des zombies.
De bons sentiments.
Le samouraï japonais de tout à l'heure.
C'est artificiel. C'est... moi, c'est, en série adaptée de chronique journalistique, je préfère largement Sex and the City, qui est mille fois plus moderne et mille fois plus ambitieux que ce truc-là, qui est dégoulinant. Et en plus, ça joue sur toute espèce de modernité. En fait, tu découvres, c'est une série ultra, quelque part, ultra réac dans son côté moderne.
Alors, juste pour pondérer un tout petit peu ça, je voudrais juste rappeler que chaque histoire n'est pas que de la guimauve et l'amour rose, tout va bien, on s'aime, on s'adore, etc. Et notamment, je vous invite à regarder l'épisode avec Anna Tawai. Oui, moi, ouais. Je l'ai regardé à 7h30 du matin. J'étais déprimée pour le reste de ma journée.
Oui, oui. Parce que ça part bien au début.
Ça part bien, ça part un peu en La La Land. Et puis, c'est quand même pas franchement rigolo voilà ce qui lui arrive. Voilà.
Pour clore ce climax, on voulait aussi vous signaler que le public étranger allait pouvoir découvrir le bazar de la charité via Netflix.
Alors, Le Bazar de la Charité, c'est le drame historique de TF1 qui a démarré lundi 18 novembre sur la chaîne et qui a rassemblé pour la première soirée une très belle audience. 7,1 millions de téléspectateurs étaient curieux pour découvrir le premier épisode. Et en tout, sur les deux épisodes de la soirée, une moyenne de 6,8 millions de téléspectateurs. Ça montre qu'il y avait vraiment un réel intérêt pour cette série. TF1 a fait aussi une grande campagne publicitaire pour cette série qui démarre avec un point de départ réel, puisque c'est l'incendie du bazar de la Charité qui a détruit le bâtiment abritant une vente caritative à Paris en 1897, qui a fait donc plus de 120 morts, dont principalement des femmes et des enfants.
J'aurais dû y être moi au bazar. J'aurais pu être une de ces malheureuses.
Et la série est portée par trois héroïnes, Audrey Fleurot, Julie Debonat, Camille Lou. Trois héroïnes qui sont pour moi parfaites chacune dans leur genre, des styles très différents. Il y en a une, Audrey Fleurot, qui joue une grande bourgeoise qui veut divorcer de son mari. Camille Lou qui trouve son premier rôle en tant que comédienne, parce qu'on l'avait vu en apparition dans Les Bracelets Rouges, mais là c'est un premier rôle et franchement elle est plutôt très bien à l'écran. Dans le rôle d'une jeune fille de bonne famille qui perd ses illusions. Et Julie Debonat, que personnellement j'adore, qui joue la bonne de cette famille, qui va avoir un destin complètement bouleversé. Alors le premier épisode reconstitue l'incendie, c'est du grand spectacle. Quasiment l'intégralité de l'épisode est consacrée à l'incendie. Et puis ce n'est que le point de départ, puisqu'après on part plus sur un soap historique avec de l'amour, des amours contrariés, des complots, de la vengeance, et c'est plutôt bien.
Oui, alors effectivement, l'ambition était claire pour TF1. C'est une série qui coûte de l'argent, beaucoup d'argent, parce que c'est une série en costume qui se passe à la Belle Époque. C'est une série qui renoue avec un genre qu'on avait un peu délaissé en France, le genre historique. Donc, y avait pas mal de défis. C'est une série, pour la première fois, une série française d'une chaîne qui va être mise en ligne sur une plateforme. Avant, il y avait de la coproduction. Là, c'est une série faite par des producteurs français qui va être donc disponible pour le public étranger. Donc, il y avait beaucoup de défis. Finalement, le pari est plutôt réussi, même si moi, je mettrais quelques bémols. Notamment sur le premier épisode, je trouve qu'on s'attache pas suffisamment. On n'a pas le temps de s'attacher aux héroïnes avant que cet incendie, certes très spectaculaire, entre en scène.
Justement, je trouve que c'est le pari vraiment super surprenant de cette série, c'est de commencer par l'événement le plus spectaculaire. Moi, pareil, je m'attendais à ce qu'on découvre les personnages et que dans l'épisode 2, 3, voire même dans le dernier épisode, que l'incendie devienne paroxysme de l'intrigue. En fait, non, ils font commencer la série par le truc le plus spectaculaire. Et quel épisode, quoi. Franchement, la scène de l'incendie, il y a des plans de mise en scène incroyables. Il y a un plan séquence, un travelling où on tourne autour de l'incendie avec les femmes prises au piège. Mais c'est terrifiant. Il y a des images absolument saisissantes pour un public de TF1. Je trouve qu'il y a des gens qui ont dû un peu sauter au plafond en voyant ces images-là. Moi, je trouve qu'effectivement, le premier épisode est vraiment super bien. Et c'est aussi hyper ambitieux de partir sur l'accident et pour après vraiment rayonner sur les personnages. C'est quelque chose de, quelque part, beaucoup plus ambitieux. Et de moins facile et de moins attendu.
Eh bien, j'espère que ce podcast vous aura donné envie de découvrir certaines séries ou peut-être va vous rebuter pour Nancy Drew, pour ne pas la citer. C'est donc la fin de ce Climax. Merci beaucoup à nos trois séries maniaques, Laurence, Katia et Yann.
Merci Seb.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Pipa et SoundCloud. D'ici là, n'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de Télé Loisirs, mais aussi sur les plateformes. Et on se donne bien sûr rendez-vous le mois prochain. Salut.